dirais volontiers d'un passage de l'exhortation, la lettre apostolique de Jean-Paul II, vous connaissez bien, Novo Millennium in Unite, fait allusion à la grande tradition mystique de l'Église. Il dit la grande tradition mystique de l'Église, c'est au numéro 33, montre comment la prière peut progresser comme un véritable dialogue d'amour, au point de rendre la personne humaine totalement possédée par le bien-aimé divin. On voit qu'il a le sens des épousailles, hein, vibrant au contact de l'esprit, filialement abandonné dans le cœur du Père. On fait alors l'expérience vivante de la promesse du Christ, celui qui m'aime sera aimé de mon Père, moi aussi je l'aimerai, je me manifesterai à lui. C'est ce que nous désirons, c'est ça la vraie sainteté. Alors il rajoute, il s'agit d'un chemin totalement soutenu par la grâce, qui requiert toutefois un fort engagement spirituel, c'est de ça dont on parle. C'est ça qui nous intéresse, c'est ce que Dieu attend de nous, c'est ce qui dépend de nous, et qui connaît aussi de douloureuses purifications. Il a mis entre parenthèses la nuit obscure, puisque ses deux grands maîtres, c'est Saint Jean de la Croix et Sainte Thérèse d'Avila, hein, et qui conduit sous diverses formes possibles à la joie indicible vécue par les mystiques comme union sponsale. Voilà, il a mis ça un peu au cœur de sa lettre apostolique sur le nouveau millénaire, en appelant tous les fidèles à aller dans la profondeur, Dukin Altum, aller vers la profondeur. Et pour lui, le Dukin Altum, aller vers la profondeur, aller au large, mais c'était au large d'abord de la contemplation. Il l'avait précisé aux cardinaux, dans un consistoire qui a eu lieu tout de suite après cette lettre apostolique, que le sens le plus profond, c'était la profondeur de la contemplation. Là aussi, on voit l'influence de la tradition du Carmel chez lui, mais ce sont des vérités en même temps qui restent essentielles. Un chrétien accompli, c'est un contemplatif actif, donc on ne peut pas viser moins que ça. Et vous avez vu l'allusion aux purifications douloureuses, entre parenthèses nuit obscure, c'est ce qu'on appelle donc les purifications passives. Donc il dit fort engagement spirituel d'un côté, et aussi purification douloureuse, on appelle purification passive dans la nuit obscure, c'est ça que décrit Saint Jean de la Croix. Et purification passive, j'en parle pas, parce que quand on les vit, eh bien on les vit passivement, c'est le Seigneur qui opère, on a besoin d'être, comment dire, rassuré, mais on n'a pas besoin de faire grand chose, si ce n'est de se laisser faire là vraiment, totalement. Et les purifications passives, elles se méritent. Elles se méritent précisément en étant fidèles aux purifications actives, c'est-à-dire en vivant ce fort engagement spirituel. Donc je ne vais pas consacrer du temps à reprendre ce que dit Saint Jean de la Croix sur la purification passive des sens et la purification passive de l'esprit, si ce n'est que dans cette distinction purification passive des sens, purification passive de l'esprit, la nuit des sens, la nuit de l'esprit, il y a cette distinction entre ce que Saint Paul à un moment dit aux Corinthiens, qu'il faut qu'ils achèvent de se purifier de toute souillure de la chair et de l'esprit. Vous vous souvenez de ce passage, hein? Achevez de vous purifier de toute souillure de la chair et de l'esprit, hein? C'est un passage qui est précieux, puisque d'une certaine manière il fonde théologiquement la distinction que fait Saint Jean de la Croix entre purification des sens, hein, et purification de l'esprit. C'est 2 Corinthiens 7.1. En possession de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, achevant de nous sanctifier dans la crainte de Dieu. Alors, ici, c'est un appel à la purification active, hein, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, hein, mais sous ces deux plans, les souillures de la chair, et ici c'est toutes les tendances, les passions désordonnées de notre psychisme blessé et malade, les convoitises de la chair, la jalousie, la colère, tout ce qui perturbe notre vie dans le concret, hein, et les purifications de l'esprit. elles correspondent purification du cœur, correspondent à ce qui est à la racine cachée de nos passions désordonnées. Donc, on est d'abord confronté aux souillures de la chair. On se sent, quand on se confesse, on confesse d'abord des péchés charnels. Charnel au sens très large, ça ne se limite pas évidemment à la sexualité. Et ensuite, on est amené progressivement à découvrir qu'il n'y a pas que des péchés charnels, mais aussi des péchés spirituels, qui sont beaucoup plus cachés. Et que les péchés charnels dépendent des péchés spirituels. La racine des péchés, dit le catéchisme, est dans le cœur de l'homme. Tout péché charnel en cache un autre. Et vous pouvez comprendre que les racines, elles sont par définition cachées. La racine de cet arbre qu'est l'homme, hein, elle est cachée. Et que on ne découvre que très progressivement la racine. Et de toute façon, cette racine, on va pas la, même si on la découvrait tout d'un coup, on ne pourrait pas pour autant la consumer tout d'un coup. Ce sont des choses qui se consument au fil des années. Purification passive, ça dure des années. La purification des sens, elle est plus longue que la purification de l'esprit habituellement. Purification de l'esprit, c'est ce qui achève. Mais ce qui est difficile, le combat le plus long, et là où on risque de traîner, c'est la purification des sens. Saint Jean de la Croix dit que la plupart des religieux meurent sans avoir achevé la purification des sens. Et notamment, c'est toute la question de l'attachement aux créatures. Purification de l'affectivité. Donc on traîne parce qu'on garde des petits attachements, le petit fil à la patte. Et on n'arrive pas à, comment dire, à rester engagé jusqu'au bout, je dirais sérieusement, dans un chemin de pénitence. Parce que ici, dans la purification des sens, évidemment, ce qui va nous aider à l'engagement spirituel, hein, qui nous permet de collaborer à l'action du Christ purificateur, c'est la pénitence. C'est le chemin, le long chemin de la pénitence. Une fois Jean-Paul II a dit que la vie chrétienne était une longue pénitence. Évidemment, quand on dit ça, on risque pas de susciter l'enthousiasme des foules. Mais c'est la réalité. On a tous plus besoin d'être purifiés qu'on ne le croit, et on a besoin d'avancer toujours plus dans les profondeurs de la pénitence chrétienne. Alors je voudrais ici citer un autre passage de l'Écriture qui nous montre un peu en quoi peut consister ce chemin de purification. C'est saint Paul qui, en Éphésiens 4, verset 21, 22, dit: il faut abandonner votre premier genre de vie. On peut dire votre conduite ancienne, le premier genre de vie du vieil homme. Donc ça, c'est la vie, un genre de vie contaminé par un esprit de possession et de domination, comme on l'a vu. Il dit qu'il va se corrompant au fil des convoitises, c'est-à-dire que si on est animé par un esprit de possession et de domination, il y a forcément une multiplication, un développement des convoitises de la chair. Qui conduisent à la mort. On parle de corruption. Et donc vous devez vous débarrasser de ce premier genre de vie. de cette manière, mauvaise manière d'aimer, pour être renouvelé, alors, par la transformation spirituelle de votre pensée, c'est la traduction de la liturgie qui rejoint celle de la Bible de Jérusalem. Donc il s'agit d'une nouvelle manière de voir, on est renouvelé, on rentre dans une nouvelle manière de voir, là c'est ce qu'on essaye de vivre ensemble, entrer dans une nouvelle manière de voir la vie, de voir l'amour, et revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la vérité, et la sainteté de la vérité. Donc on est obligé d'enlever un vieux vêtement pour mettre un autre vêtement. On est obligé, si on ne se laisse pas purifier, on ne peut pas revêtir la vie nouvelle. C'est-à-dire il y a vraiment besoin d'un dépouillement. Or on est amené à lâcher un premier genre de vie, c'est-à-dire à lâcher ce qui nous fait vivre, ce qui perd sa vie, à lâcher une vie pour entrer dans une vie nouvelle. Ben, ça a un goût de vide. Entre les deux, c'est comme s'il y avait un temps de mort. Dans la purification passive des sens, on est desséché dans sa vie affective. On n'éprouve plus le sentiment d'aimer. Comme si le Seigneur nous vidait de notre capacité, enfin plutôt de notre mode humain d'aimer, nous en dépouille lui-même à la fin, pour ensuite nous réinvestir pour que ce soit ensuite un amour nouveau, la charité divine, qui prenne possession de toutes nos facultés. Mais si on ne veut pas se vider, on ne veut pas se laisser remplir. Avec les enfants du catéchisme, je prenais un vase sale et j'avais mis plein de saleté. Je disais, est-ce qu'on va pouvoir mettre un beau parfum là-dedans? Et tous les enfants criaient, non, jamais, jamais. Non, il faut d'abord nettoyer le vase. À la grâce de Dieu, c'est ça aussi. Elle a besoin d'une purification, je dirais, radicale, hein, pour pouvoir ensuite se déployer et prendre possession de notre humanité. Et la plupart des gens, ils ne veulent pas l'enlever entièrement, le vieux manteau, le vieux vêtement. Ils ne veulent pas se retrouver nus. Ils ne veulent pas se retrouver vides. C'est la peur du vide aussi. Alors, dans ce travail de purification, on est toujours tenté de crier victoire un peu trop vite, parce que on va de purification en purification. Et dès qu'on en a traversé une, on se dit, ben voilà, maintenant, ça y est, j'ai vaincu vraiment l'ennemi intérieur. Jusqu'ici, je ne l'avais pas vu, maintenant je l'ai vu, je me suis confessé, j'ai pris des bonnes résolutions, c'est clair, c'est net, on y va, la vie nouvelle commence. Non, ça ne marche pas comme ça. Une racine en cache une autre, si je puis dire. En tout cas, la racine, elle est plus longue et plus profonde qu'on pensait. On l'a coupée pour une part. Moi, dans le jardin de mon grand-père, pendant des années, adolescent, je me suis battu avec des sortes de ronces, lianes, qui avaient des racines souterraines qui n'en finissaient pas. Je les arrachais comme ça, je tirais dessus, je passais des heures, j'avais l'impression que le terrain était aplani, enfin défriché. Et puis en fait, l'année suivante, elles étaient toujours là. Il y a vraiment... Oui. Donc, tant qu'on n'a pas arraché la racine de la racine, enfin, hein, ça repousse. C'est là qu'on risque de se décourager. Non, on a fait une partie du travail, mais il faut accepter que le combat ne soit pas... Non, il n'y a pas de victoire comme ça d'un coup dans ce domaine-là. Mais si vous prenez l'image du feu, si vous pensez qu'en définitive, c'est des racines qui doivent être brûlées par le feu, ça n'a jamais brûlé quelque chose d'un coup. Hein. Le feu, ça consume progressivement. Et je reprends l'image de la bûche. Saint Jean de la Croix a dit que l'âme, elle est comme une bûche, alors qu'elle doit être consumée par le feu donc de la divine miséricorde. En définitive, c'est l'amour miséricordieux qui nous brûle. Et il dit que quand, au contact de la flamme, loin de devenir rougeoyante, pensez à l'image du fer qui, au contact du feu, devient progressivement lumineux. Là, la bûche, finalement, l'image est plus parlante. La bûche, elle, elle devient noire au contact de la flamme qui est rouge et lumineuse. Et elle se met et sort de la bûche toutes sortes de saletés, dit saint Jean de la Croix. Ouais. Et qu'on n'aurait pas cru que c'était dedans, quoi. Eh bien, quand le Seigneur commence à travailler plus profondément quelqu'un dans le sens de la purification, il fait que ça sort. Donc on a plutôt l'impression de régresser que d'avancer. Et là, on risque de se décourager si on n'est pas bien accompagné. On se sent dans un état de misère qui dépasse simplement les actes particuliers que l'on peut commettre. Mais on ne peut offrir nous-mêmes au feu de la divine miséricorde que ce qu'on accepte de voir. Et sur ce chemin de la purification, notre premier ennemi, c'est l'aveuglement, l'auto-aveuglement, le refus de reconnaître, de voir. Personne n'aime voir son péché. Il y a d'immenses résistances à la lumière. Alors, il y a certains gros péchés, la gourmandise, machin, la limite, oui, la colère, tout ça, enfin bon. Ça va bien, ça meuble la confession, mais ce qu'il y a derrière, c'est on ne veut pas le voir. C'est comme une fusée à trois étages, enfin plutôt un engrenage, vous voyez, il y a les péchés charnels, bon, qui apparaissent visiblement, qui nous humilient souvent un peu devant les autres, parce que c'est trop évident. Il y a le moi possessif, il y a l'esprit de possession, domination qui est derrière. Et puis derrière, il y a le péché originel, principe de tous les autres péchés. Le péché originel, on peut le définir comme l'orgueil, mais c'est aussi la non-foi, la non-confiance en Dieu, le refus de croire, les résistances à Dieu lui-même. Ce péché originel, il est caché. Et on ne peut pas le voir comme ça, on peut comprendre intellectuellement, mais c'est pas la même chose de comprendre intellectuellement les péchés que de les voir. On a besoin de les voir et d'en souffrir, de souffrir de la vision de plus en plus aiguë du péché. C'est ça le purgatoire. Hein? On souffre de voir ce péché dans une vérité de plus en plus douloureuse. Et en souffrant, on se purifie. Donc on voit ça très bien dans la purification passive. L'âme est de plus en plus en contact avec sa misère radicale, elle en souffre. Et elle ne fait que ça, elle voit, elle souffre, elle offre, et puis ça se consume progressivement. Alors, ici, nous pouvons nous rappeler deux paroles de l'Évangile. D'abord, dans Saint Jean, Jésus dit bien, que celui qui commet le mal déteste la lumière et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient déclarées coupables. Et aucun de nous n'échappe à ça. Ça, on dit que le péché est auto-aveuglant, mais c'est nous-mêmes qui nous aveuglons. Hein? Et en parallèle, ça c'est donc Jean 3, 19, ou plutôt 20, verset 20, et en parallèle, pour nous consoler, si je puis dire, nous rassurer, nous avons un défenseur qui est l'Esprit Saint, hein, au sujet duquel Jésus dit qu'il établira, il convaincra le monde du péché, littéralement. Il convaincra le monde au sujet du péché. La Bible de Jérusalem traduit, il établira la culpabilité du monde. Donc, en réalité, seul l'Esprit Saint peut nous montrer notre péché. On peut comprendre intellectuellement nos péchés en lisant le catéchisme. Il y a plein d'explications sur le péché, on peut en reconnaître certains. Mais ce n'est pas la même chose, encore une fois, de comprendre intellectuellement son péché et de le voir dans la lumière de l'Esprit Saint. De voir la réalité du mal, la profondeur du mal. Et cette lumière sur notre péché, évidemment, elle peut être donnée que peu à peu, parce qu'on ne supporterait pas de voir la pleine lumière sur notre péché. Une fois, le curé d'Ars avait demandé à Dieu de lui montrer son péché. Vous savez comment Dieu lui a répondu, hein, que s'il le voyait, il en mourrait. Le péché du curé d'Ars à côté des nôtres. Et donc, on demande à Dieu, éclaire-moi, montre-moi mon péché. Et lui, si je puis dire, il répond doucement, doucement. Hein, il y va avec ménagement. Mais en même temps, il nous corrige. Il nous corrige donc progressivement. Alors, de quoi se sert l'Esprit Saint pour nous éclairer? Essentiellement de la parole de Dieu, vous allez me dire, hein? C'est sûr que dans la parole de Dieu, il y a une puissance de frappe extraordinaire pour dévoiler le péché qui est exprimé, vous le savez bien, en Hébreux 4, 12. Vivante est la parole de Dieu, efficace, hein, énergique et plus tranchante, incisive, qu'aucun glaive à deux tranchants. Pénétrant jusqu'au point de division de l'âme et de l'esprit, des articulations et des moelles. Elle peut juger les sentiments, on peut traduire les cogitations et les pensées. En réalité, ici, c'est les intentions du cœur. Les cogitations cachées, les pensées secrètes, voyez, qui sont liées, les desseins secrets, voyez, qui sont liés aux intentions profondes du cœur. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus se tourne vers les apôtres de Jean-Baptiste et leur dit: que cherchez-vous? Et dans l'examen de conscience, en fait, c'est la première chose qu'on devrait se demander. C'est en fait demander à l'Esprit Saint qui nous éclaire, parce qu'on s'aveugle nous-mêmes sur notre intention profonde. On se cache derrière notre bonne intention. On a voulu faire le bien. Oui, mais dans quelle intention profonde? Et l'Écriture nous dit que la parole de Dieu est capable d'aller là où on se cache la vérité à soi-même, jusque dans les intentions cachées du cœur, les desseins secrets. Dans le cadre d'un enseignement, ou même d'une homélie, d'une retraite, tout ça, il faut faire très attention aux paroles qui nous énervent. Sinon, c'est les paroles qu'on a envie de mettre de côté, quoi, en disant: ben ça, je sais, moi. Pas la peine de me le dire, je sais très bien. Petit énervement. C'est qu'on est touché sur un point qu'on n'a pas envie du tout de voir. Ou alors, si le Seigneur est en train de nous travailler déjà et qu'on est sur un chemin de conversion, sur un point, on va être confirmé que de fait le Seigneur nous redit que voilà, il nous appelle à tel point de conversion. À ce moment-là, on va être touché dans le cœur. Mais sinon, s'il y a une vraie résistance à la lumière, ça se traduit par un petit énervement intérieur. On botte en touche le bon Dieu, si je puis dire, l'Esprit Saint, hein? On ne veut pas se laisser. Je dirais, dérangé dans notre aveuglement. Alors, étant donné nos capacités de résistance à la lumière, la confrontation avec la parole de Dieu, hein, qui est tout autre chose qu'une introspection, hein, il faut passer de l'introspection à la confrontation. C'est pas moi qui me regarde, c'est Dieu qui me juge. C'est pas moi qui me juge, c'est Dieu qui me juge. Je me laisse juger par Dieu. Et étant donné nos forces de résistance, forcément Dieu est obligé de nous ébranler. Il faut qu'il y ait un ébranlement, il nous parle et il nous corrige aussi à travers les événements, évidemment, les événements douloureux. Les événements douloureux, on le voit dans la parabole du fils prodigue, où enfin cet homme rentra en lui-même à cause de la souffrance. Et rappelez-vous le texte de Marthe Robin. Qu'on peut, comment dire, s'accommoder d'une vie apparemment normale, comme ça, que finalement on s'installe, une sorte d'autosuffisance, la souffrance est comme un glaive, hein, qui nous empêche de nous acclimater à cette vie tiède, apparemment normale, et qui en fait est profondément égoïste et centrée sur nous-mêmes. Donc, en complément de Hébreux 4, vous avez Hébreux 12, hein, sur les corrections du Seigneur à travers les souffrances. Hein. Mon fils, ne méprise pas la correction du Seigneur, ne te décourage pas quand il te reprend. Hein, c'est là qu'il est dit, car celui qu'aime le Seigneur, il le corrige, et il châtie tout fils qu'il agresse, et pour votre correction que vous souffrez. Et Saint Paul précise hein, que nos parents, ils nous corrigeaient, hein, quelquefois très sévèrement, mais pour peu de temps et au jugé. Oui, c'est vrai que c'est plutôt au jugé. Hein. Mais lui, Dieu, c'est pour notre bien, afin de nous faire participer à sa sainteté, à notre sanctification. Il précise, certes, toute correction ne paraît pas sur le moment être sujet de joie, mais de tristesse. Plus tard, cependant, elle rapporte à ceux qu'elle a exercés un fruit de paix et de justice. Donc, quand le Seigneur nous corrige à travers un événement, un échec, ou à travers des personnes qui nous punissent, entre guillemets, ben, sur le moment, ça peut que provoquer de la tristesse. On n'est pas encore, on ne voit pas encore son péché, mais on subit la correction. Mais c'est plus tard qu'il y aura un fruit de lumière. On pourrait redire ici, à toute chaîne, per coup de chaîne. C'est plus tard que la lumière se fait progressivement sur notre péché, à condition qu'on ne se révolte pas, qu'on ne se décourage pas non plus, et qu'on ne méprise pas, comme dit l'Écriture, la correction du Seigneur. Moi, quand j'étais aumônier du putage, j'ai souvent entendu des grands-mères dire « Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que je sois malade maintenant ?» C'est « Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ?» Évidemment, on a envie un peu de sourire, on se dit ben, « Nous, on n'est pas là-dedans. » Mais en réalité, à chaque fois qu'on a une tuile, on se dit quand même « Mais qu'est-ce que j'ai fait ?» Quelque part. On le ressent un peu spontanément comme une correction. J'étais aumônier d'hôpital, j'ai vu des religieux, des prêtres en fin de vie prendre subitement conscience de certaines choses et se dire, mais bon, il fallait qu'ils se retrouvent sur un lit d'hôpital pour avoir la lumière par rapport à leur vie. Bon, et pourtant, c'était des gens qui en savaient des choses, hein, mais on est tous comme ça. En fait, on a besoin d'être ébranlés pour être éclairés. Et on ressent donc, spontanément les souffrances comme des corrections, et on est tenté de se juger soi-même aussi, de chercher nous-mêmes le péché. Et il ne faut pas. Il faut laisser la lumière venir. Il faut accepter l'épreuve, c'est tout ce que le Seigneur nous demande. On accepte la fessée du bon Dieu. Et la lumière, elle viendra après. Mais si on commence à se culpabiliser et à se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait pour que ça ne marche pas, tout marche mal, c'est de ma faute, on ne le dit pas, mais on le pense quand même, dans le secret que c'est notre faute, c'est pas le bon chemin. Il faut... La première manière de laisser la lumière se faire, c'est d'accepter la croix. Et puis la croix, ensuite, produit son fruit de lumière. Mais sans y mêler des auto-jugements. On n'a pas à se juger soi-même. Mais à laisser la lumière venir. Ici, je vous invite à relire un autre passage. C'est 1 Corinthiens 4. Où Saint Paul dit... Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous, il parle aux Corinthiens, ou par un tribunal humain. C'est le début du chapitre 4. Donc ça, c'est le verset 3. Bien plus, je ne me juge pas moi-même. Ma conscience, il est vrai, ne me reproche rien. Mais je n'en suis pas justifié pour autant. Mon juge, c'est le Seigneur. Ainsi donc, ne portez pas de jugement prématuré. Ça, on est tous tentés de porter des jugements prématurés sur nous-mêmes. Mais laissez venir le Seigneur, laissez venir. C'est lui qui éclairera les secrets des ténèbres et rendra manifestes les desseins des cœurs. On retrouve cette idée-là qui est en Hébreux 4, les desseins des cœurs, les intentions secrètes cachées, même cachées à nous-mêmes. C'est lui qui les révélera. La racine, c'est lui qui la montrera. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui revient. Bon. Il faut vraiment en partir du fait, Benoît XVI aimait bien rappeler ça, que nul n'est bon juste sur soi, qu'on a besoin d'être jugé par un autre. D'ailleurs, heureusement, si on était jugé par nous-mêmes au jour du jugement, ça serait terrible. Tellement on est en réalité dur avec nous-mêmes. Et on a besoin, nul n'est bon juge sur soi, on a besoin aussi du regard des autres. Mais alors ici, saint Paul dit, je ne me laisse pas juger par les autres. Mais on n'a pas besoin du jugement des autres. On a besoin de leur regard sur nos actes, pas des jugements sur nous, de leur appréciation sur notre personne. Mais, je dirais, de leur réaction spontanée à nos actions. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire, là où il y a du péché, il y a toujours une puissance destructrice qui fait souffrir. C'est une réalité objective. Et donc, forcément, il y a une réaction. Et la première réaction est la bonne. La réaction spontanée, pas la réaction seconde ou qui est mêlée de jugement sur notre personne, ah, il a encore fait ça, mais il est comme si. Non, ça, on n'en a rien à faire des jugements des autres. Je ne me laisse pas juger par les autres. Mais je suis attentif aux réactions premières par rapport à mes actions. Qu'est-ce que ça provoque en l'autre ? Et évidemment, si on pouvait se dire ce que ça provoque en nous, simplement, en se disant, bah, écoute, tu me fais souffrir en te conduisant comme ça. Vous savez, on apprend ça dans les techniques de communication non violente. Hein. On ne juge pas, mais on dit ce qu'on éprouve. Mais là, pour le coup, je trouve que c'est bien, c'est-à-dire face à tel comportement, eh bien, on dit sa peine, on dit son mal-être, on dit sa tristesse. À ce moment-là, ça fait pour celui qui entend un signal sonore à travers lequel il est appelé à se remettre sous la lumière de Dieu en disant, mais Seigneur, qu'est-ce qui fait que je peux produire un tel mal-être chez l'autre? Le péché blesse toujours. Il blesse l'amour en nous. Il blesse l'amour en nous et il blesse le cœur de l'autre aussi. Alors évidemment, ça provoque donc une première réaction enfin de souffrance, mais qui est en même temps mêlée d'une réaction de défense. C'est-à-dire que l'autre réagit mal au mal, enfin le plus souvent. Quand on réagira spontanément bien ou mal, c'est qu'on ne sera pas venu à la sainteté. Mais notre première réaction, parce qu'on n'a pas la force d'assumer, c'est qu'on réagit mal ou mal au sens où on se défend, se protège. On ne garde pas un cœur ouvert. On s'y mêle tout de suite une réaction qui est liée à la colère, parce qu'on ne supporte pas jusqu'au bout l'autre. On n'a pas la force de le supporter. Mais ce n'est pas parce que la réaction de l'autre est mêlée de colère qu'il n'y a pas quelque chose de vrai. Parce que souvent, on botte en touche en disant, ben voilà, il est énervé, on va laisser se calmer, c'est son problème. Oui. Enfin, c'est pas si simple que ça, les choses sont mélangées. Je dis que c'est plus facile de croire qu'on s'est aimé quand on vit seul. Mais la vie commune, elle met à nu les défauts des uns et des autres. Et les réactions des uns et des autres, c'est les réactions à ce qu'on est, à ce qu'on fait, qui nous mettent à nu. Et ça, c'est comme dans le mariage. Hein. Dans le mariage, les couples font l'expérience, toutes les confidences que j'ai reçues, que dans l'acte conjugal, ils sont chair contre chair, et là, tout se révèle. Les difficultés intimes du couple. L'acte conjugal met à nu les blessures des uns et des autres, et les difficultés de communion, de communion spirituelle. Et dans une vie communautaire, c'est chair contre chair aussi, c'est la confrontation, le frottement des personnes dans la vie réelle, c'est ça qui met à nu aussi la réalité de notre péché. Alors évidemment, c'est les péchés charnels qui apparaissent, parce que c'est chair contre chair, mais derrière le péché charnel, il y a quelque chose de plus profond que le Seigneur voudrait nous montrer. Alors, comment comment avancer sur ce chemin de purification? D'abord en nous souffrant à la lumière. Et donc, en acceptant la douloureuse vision des choses, mais aussi en la confessant. C'est-à-dire, il y a un exercice de reconnaissance de mon péché, d'accepter de voir, de laisser la lumière se faire, et de le reconnaître aussi jusqu'à l'aveu, mais même de le dire, pas simplement de se le dire, mais de le dire à un autre. Ça fait partie du chemin par lequel nous laissons la lumière se faire en nous, parce que d'aveu en aveu, de confession en confession, la lumière peut nous pénétrer davantage. Une confession en prépare une autre. Hein, c'est couche par couche. D'où l'importance de se confesser assez régulièrement, hein, pour mener un travail de fond. Ici, je tiens à préciser quelque chose qui m'est très, très à cœur et qui correspond à la grande tradition pénitentielle de l'Église. Je vous cite le catéchisme, 1435. La conversion se réalise dans la vie quotidienne. Ici, on parle de la vie quotidienne, par des gestes de réconciliation. Je passe sur certaines choses, on verra par la suite, mais par l'aveu des fautes aux frères. Vous avez bien entendu? L'aveu des fautes aux frères, c'est la vie quotidienne. La correction fraternelle, la révision de vie, l'examen de conscience, la direction spirituelle, l'acceptation des souffrances. Bon, il rajoute prendre sa croix chaque jour est le chemin le plus sûr de la pénitence. On l'a vu suffisamment, ça. Hein? Mais vous avez vu cette insistance. L'aveu des fautes aux frères, la correction fraternelle. En même temps, il y a la révision de vie, l'examen de conscience, la direction spirituelle. Mais il n'y a pas que. Mais la direction spirituelle, c'est bien la direction spirituelle. On peut essayer de faire le point avec son directeur spirituel. Le directeur spirituel ne voit pas vivre. C'est les frères qui nous voient vivre. C'est les frères qui nous font sentir les choses, quelquefois un peu violemment. Et alors, si en fait on passe notre temps à se corriger, entre guillemets, par nos réactions, mais si la correction fraternelle on la vivait consciemment, c'est-à-dire en se disant les choses, mais en vue de ce de s'édifier et de se sanctifier les uns les autres. Mais ça, dans la tradition de l'Église, hein, ça a une concrétisation très, très, très claire dans le chapitre de la culpe. Vous savez qu'après le Concile, il y a eu beaucoup de monastères qui ont renoncé à battre la culpe. Au chapitre des culpes. C'est-à-dire que les frères supportaient plus bien l'exercice. Alors l'exercice consiste en quoi ? Il consiste que par rapport aux règles de la vie communautaire, on se retrouve une fois par semaine et on dit, on avoue ses manquements à la règle. C'est sur le plan de la vie communautaire. Et les autres nous disent les manquements qu'on a faits, qu'on n'a pas vus. C'est à la fois la correction fraternelle et l'aveu des fautes aux frères dans une même réunion. C'est-à-dire que c'est un exercice extrêmement délicat. Je comprends que certaines communautés aient complètement lâché. J'ai écho que dans certains monastères, les jeunes maintenant veulent refaire ça. Enfin, veulent refaire, ils n'ont jamais connu. Mais ils souffrent que ça n'existe pas. Parce que moi, je pense que ce qui se passe, c'est qu'on ne peut pas se dire les choses. Et ben, c'est le commérage comme le dénonce le pape François, hein. C'est-à-dire, il faut que ça sorte de toute façon. Mais ça ne sort pas dans le bon sens, ça sort pas à la personne qui aurait besoin de l'entendre. Mais on ne se dit pas les choses. Et pourtant, il y a, il y a un ordre, hein, dans l'Évangile. Jésus dit, si tu vois ton frère qui pêche, viens. Va le voir, prends-le seul à seul et puis fais-lui de vifs reproches même. Reprends-le fortement. S'il refuse d'écouter, va chercher deux ou trois fois. Puis s'il refuse d'écouter, ben tu en réfères à l'Église. Mais il y a un ordre. Ben, généralement, c'est la première marche qu'on rate. C'est-à-dire, le frère qui nous blesse, on ne va pas le voir lui-même pour lui dire, écoute, ce que tu me fais, ça me fait souffrir. Et puis on ne le fait pas à part. On peut avoir des réactions. Il faut le faire. Prends le seul à seul, dit Jésus. Puis tu lui fais la correction. Mais dans un esprit de charité. Le pape Benoît a dit qu'une fois, la correction fraternelle, c'est une grande œuvre de miséricorde. Mais ça demandait beaucoup d'humilité. On ne corrige pas les gens de haut. Si soit on ne se sent pas pécheur, c'est même pas la peine d'assister. Et si on ne le fait pas par charité, parce que si on est conscient que c'est une grande œuvre de miséricorde, ben, il n'y a rien à faire. Ça ne passera pas, évidemment. Mais si on peut le faire solidaire les uns des autres, qu'on se corrige les uns les autres, qu'on se dit les choses parce qu'on veut avancer ensemble dans la sainteté, ben, ça c'est extraordinaire à ce moment-là. Écoutez le catéchisme du Concile de Trente. L'expérience prouve que rien n'est plus propre à réformer les mœurs des personnes corrompues. Ici, Schoenberg dirait, c'est pas nous, évidemment. Il a dit ça à l'Emmanuel. À chaque fois qu'il faisait des trucs négatifs, il disait, je ne parle pas pour l'Emmanuel, évidemment. L'expérience prouve que n'est plus propre à former les mœurs des personnes corrompues. Que la confidence réitérée de leurs pensées, de leurs paroles et de leurs actions à un ami sage et fidèle, qui peut les aider de ses services et de ses conseils. La confidence réitérée de leurs pensées, de leurs paroles et de leurs actions. Un ami sage et fidèle. Heureux celui qui a trouvé un ami sage et fidèle à qui il peut avouer ses fautes quotidiennement. Ça, c'est le top. Moi, ça m'a été donné de le vivre avec cette personne dont je vous ai parlé, qui a fait un très beau chemin spirituel et qui travaillait avec moi à l'Hôtel Dieu. Elle me voyait vivre mon apostolat. Et chaque jour, elle ne me ratait pas. Mais elle ne me ratait pas parce qu'elle me voyait. Et moi, j'avouais. Je finissais par avouer, après m'être débattu pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, je finissais par avouer qu'elle avait raison. Mais ça, c'est l'ami sage et fidèle qui corrige. Et puis, à qui on apprend finalement à. Moi, j'ose dire à se confesser au sens de l'aveu des fautes aux frères. C'est-à-dire, vous savez bien ce que dit l'Église, hein, s'il n'y a pas de prêtre, en cas de danger de mort, on se confesse au prochain. C'est-à-dire, l'aveu a toujours une valeur purificatrice. Dieu donne sa grâce aux humbles, et l'aveu, c'est un acte d'humilité. Grâce de repentir, donnée à travers l'aveu. Et donc, on ne peut pas se confesser tous les jours à un prêtre, mais on peut vivre une attitude de confession tous les jours les uns vis-à-vis des autres. Ça, je dois dire qu'entre prêtres, je n'ai jamais vu ça. Il y a énormément de pudeur, de difficultés, enfin. Mais qu'est-ce qu'on rate comme grâce à ne pas le vivre? Voilà, c'est aussi toute une tradition qui s'est perdue. Mais je me dis, si les moines n'y arrivent pas à le vivre, ils sont quand même, j'ai envie de dire, ils ont que ça à faire. C'est un peu méchant, mais ils sont là comme des maîtres normalement en chemin de sanctification. Ils ont les trois vœux pour les aider, tout ça. Et on voit qu'il y a des résistances à cet exercice. Mais entre prêtres, là, c'est prêtre diocésain en tout cas, on voit que c'est pas ça, la peur de la réaction de l'autre. Et puis, mais alors ça part dans qu'on va le dire à d'autres, quoi. C'est toujours la même chose. On a envie de vider sa colère, et puis on va la vider d'une autre manière qui va faire beaucoup de mal, parce que si on le dit à des gens qui ne sont pas capables de nous aider à prendre du recul, c'est vraiment rajouter du mal au mal. En tout cas, moi j'ai expérimenté ça dans ma vie, et je ne m'en serais pas sorti si je n'avais pas eu une personne pour me corriger au quotidien. Vraiment, c'est pas mon confesseur et mon directeur spirituel qui aurait pu suffire, parce qu'il n'y voyait rien, et moi-même je n'y voyais rien. Donc on fait ce qu'on voit, et quand on ne confesse pas, ben, moi d'avoir affaire au curé d'Ars, sinon ben, la personne est faite avec la matière qu'on lui apporte. Comme on est aveuglé, il y a des choses qu'on ne confessera jamais parce qu'on ne les verra jamais. Ça, je trouve ça terrible qu'on se prive de la correction au quotidien. Vous voyez, telle qu'elle est dans ce explicité là, la conversion se réalise dans la vie quotidienne, là, par là, de cette manière-là. Alors, qu'est-ce qui peut faire que de lumière en lumière, en même temps qu'il y a ce travail de lumière, qu'est-ce qui fait que je vais pouvoir, sortir de l'esclavage du péché, c'est-à-dire arriver à déraciner le péché de mon cœur. J'ai dit à quel point c'était un long chemin que d'arriver jusqu'à la racine. Mais quand le Seigneur nous donne de voir la racine, qu'est-ce qui fait qu'on va pouvoir enfin l'enlever, cette racine? De quoi on a besoin pour ça? Quel est le secret de la victoire sur le péché, si je puis dire? Ça s'appelle la contrition parfaite. Le repentir d'amour. Qui fait que on entre dans ce que le catéchisme du Concile de Trente appelle une souveraine détestation du péché. Haïssez le mal, vous qui aimez le Seigneur. Une vraie haine de ce péché, sans plus aucune complicité avec le péché. La complicité avec le péché, elle est dans notre cœur. On est plus attaché à nos péchés qu'on ne le pense. Et la détestation du péché, elle est dans notre cœur. C'est la contrition. Je prends l'exemple de quelqu'un qui est attaché à l'alcool, qui ne peut pas s'empêcher de boire un peu trop. Je pense à des personnes qui sont attachées à l'alcool parce qu'elles ont un fond dépressif. L'alcool, pour elles, c'est leur anxiolytique. C'est une consolation éphémère, et bien misérable, mais une consolation quand même, qui leur permet de ne pas descendre dans le gouffre, l'abîme d'angoisse qui les habite. Parce que c'est trop douloureux. Et donc elles s'accrochent à leur verre de vin, même si elles savent qu'elles risquent d'en mourir. Et en même temps, ces mêmes personnes vont faire des cures. Elles vont voir des alcoologues, elles vont faire des démarches pour s'en sortir, parce qu'elles savent qu'elles risquent d'avoir une cirrhose du foie. Elles font des démarches pour vaincre leurs mauvaises habitudes, et en même temps elles sont attachées à cette mauvaise habitude au fond de leur cœur. Et donc on va faire un régime, on va arriver pendant le temps d'une cure à peut-être s'abstenir pendant quelques semaines, et puis ça revient. Qu'est-ce qui manque ? La perception de la racine et la détestation souveraine de cet alcoolisme. Je prends un autre cas, un garçon que j'ai connu qui avait commencé à se prostituer à 11 ans et demi. Il m'a avoué qu'il devait avoir 18 ans, 19 ans, et il était tombé sur une assistante sociale. Le prostitué, il s'était retrouvé à la rue. On lui a expliqué que s'il voulait avoir une chambre d'hôtel et tout ce qu'il fallait, il suffisait de faire ça. Il a fait ça, il a continué. Il m'a avoué que pendant 2 ans, il avait chambre d'hôtel et ticket restaurant. Tout ça aux frais de la sécu. Mais il a continué à se prostituer. C'était pas le problème. Et pourquoi il a continué à se prostituer ? Parce que c'était sa seule manière d'aimer. Il n'en connaissait pas d'autre. D'être en relation. Il était attaché à un amour mauvais, mais qui était quand même un amour, entre guillemets. En tout cas, une manière d'être en relation. J'ai connu à l'hôpital une personne qui s'était prostituée à plus de l'âge de frôler les 80 ans. Ça meublait le temps. Elle n'était pas seule comme ça. Et en même temps, ces personnes s'en confessent, elles trouvent que c'est pas bien. Non, c'est pas bien. Mais on y est attaché quand même. Ouais, le cœur de l'homme. Compliqué. Il faut enlever un premier genre de vie, se dépouiller d'un premier genre de vie, d'un premier genre d'aimer, pour en revêtir un autre, mais on a horreur du vide. Donc on s'accroche. Et en même temps, ça nous détruit, mais on s'accroche quand même, puis on finit par en mourir. Et qu'est-ce qui peut nous sortir de ça ? Je redis la contrition. La contrition, elle est donnée par Dieu dans une grâce de lumière qui nous fait voir le péché dans toute son horreur, c'est-à-dire comme offense faite au cœur de Dieu. On ne le voit plus par rapport à soi, ça me démolit, mais on le voit dans la vision de ce qu'il est réellement, offense à l'amour pur de Dieu, à l'amour divin. Et cette lumière sur le péché qui nous fait voir dans toute son horreur et provoque une souffrance que le catéchisme de Concile de Trente dit être la souffrance, la douleur la plus grande de l'âme. Évidemment, vécu dans toute son intensité, comme ça, moi je peux vous témoigner que je l'ai vécu plusieurs fois dans ma vie, c'est l'espace d'un éclair. C'est une souffrance, c'est une vision qui est donnée, et dans l'instant même, il y a une détestation, en même temps une souffrance, oui, une souffrance de voir ce que l'on voit, et une détestation et une extrême douleur de l'âme. Et en même temps, l'Église dit que celui qui a la contrition parfaite n'a pas besoin de se confesser ensuite. Sacramentellement, il est lavé de sa faute. La contrition lave tout. Il n'a pas besoin de faire pénitence ensuite. Contrition parfaite, elle lave tout. Elle purifie radicalement. Évidemment, en bonne logique, comme on n'est jamais sûr d'avoir eu la contrition parfaite, on peut toujours dire qu'il faut se confesser après, mais quand on l'a vécu, on sait qu'on est pardonné. On sait qu'on est totalement lavé. Et non seulement totalement lavé, mais on sait qu'on est détaché du péché. On l'expérimente. Personnellement, je n'ai jamais vécu la contrition parfaite dans la confession sacramentelle. Mais je l'ai toujours vécu dans un moment où je reconnaissais ma faute. Je ne la voyais pas encore, mais le fait de la reconnaître, de la dire, obtenait la vision. Et j'en conclus que la confession, ce n'est pas parce qu'on voit ses péchés, c'est pour les voir. Et qu'on ne se confesse pas non plus parce qu'on regrette sincèrement ses péchés, on se confesse pour les regretter un jour sincèrement. On est dans ce qu'on appelle l'attrition, l'attrition imparfaite. Mais on chemine vers la contrition parfaite. Et on ne se contente pas de l'attrition. On ne se dit pas, voilà, maintenant c'est réglé. C'est vrai que même s'il n'y a qu'une attrition, une contrition, c'est-à-dire une contrition très imparfaite dans laquelle en fait on souffre du péché à cause de soi-même, comme dit le catéchisme du Concile de Trente, Dieu pardonne le péché. Dieu pardonne le péché, mais il ne nous libère pas de la racine, il ne peut pas. Parce qu'on reste attaché au péché, en fait. On garde une complicité intérieure. Et après, on va se reconfesser un mois après en disant, voilà, je retombe toujours dans mes péchés, je ne comprends pas. Mais si, je comprends, c'est qu'il manque le repentir. Mais au moins, il faut se confesser avec le désir du repentir. Il faut se reconfesser en vue du repentir. Et il n'y a pas que la confession qui aide au repentir. Il y a l'aveu des fautes aux frères, il y a la correction fraternelle, il y a la révision de vie, il y a tout un ensemble qui fait qu'on chemine vers une vraie contrition. Sinon, excusez-moi, mais c'est un peu de la blague. Enfin, de la blague, on se ment un peu à soi-même. On règle les comptes avec le bon Dieu, voilà, on a fait sa confession, voilà, on a le pardon des péchés, et maintenant passons à la suite. Mais on n'est pas dans une démarche pénitentielle profonde. Alors, c'est la vie tout entière qui doit être pénitentielle. À ce moment-là, il ne faut pas s'étonner qu'on traîne et qu'on n'en finisse pas, et que, comme dit Saint Jean de la Croix, la moitié des religieux, à la fin de leur vie, n'ont pas fini la purification des sens. On fera la suite l'après-midi.